I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui sent tout le poids de son âge. Imaginez, 74 émissions au compteur, ça commence à tirer. Les ravages du temps, c'est justement tout le thème de l'émission du jour, puisque nous allons nous attarder en longueur sur Logan, nouvel épisode au ciné de Wolverine, et normalement le dernier pour Hugh Jackman, qui conclut avec une certaine puissance son run de 18 ans sous les traits du célébrissime Serval de Marvel. Et pour en parler, qui de mieux qu'un duo de héros vétérans de la critique, Daniel Andreev. Salut Daniel.
Bien le bonjour.
Et Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Et je salue également le public réunis ici à l'Antenne Paris. C'est nos ciné, épisode 74, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Logan nous emmène dans un futur proche où les mutants se raréfient à grande vitesse et où le légendaire professeur Xavier, toujours incarné par Patrick Stewart, s'avance peu à peu dans les confins de la sénescence, sa marche vers le grand âge se faisant accompagné du mutant Caliban, joué par Stephen Merchant, et surtout sous la protection de Wolverine, Jackman donc, tout ce petit monde survivant dans un désespoir assez vif lorsqu'une jeune femme vient leur demander de protéger Laura, alias Daphne Keen, une mutante menacée par de sombres individus, ce qui va raviver la flamme de la cause dans le cœur du vieux Logan.
Où est she? Beneath the stains. She's like you. Of time. Very much like you. The feelings
disappear. She needs our help.
You are. Someone come along.
Someone has come along.
I am still right here.
Et à la réalisation, on retrouve James Mangold qui avait signé Wolverine, le combat de l'immortel en 2013, mais également Copland ou encore le biopic de Johnny Cash, Walk the Line en 2005, ce qui explique peut-être l'usage de cette reprise de Hurt qu'on vient d'entendre à l'instant. Quel regard on porte sur ce Logan autour de la table, Julien?
Enfin. Non, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, j'ai pleuré. Oh. Et j'avais oublié qu'un film adapté de comics pouvait me faire pleurer, en fait. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, c'est un peu la lead du blockbuster. Et ça fait extrêmement plaisir de revoir tout à coup un film de super-héros avec un point de vue, avec un cinéaste qui écrit, qui s'intéresse à ses personnages, qui est radical quand il faut être radical et pas gratuitement d'ailleurs. Même si moi j'aime bien Deadpool, mais là il faut peut-être le dire très rapidement, le film est rated aux États-Unis, alors que la plupart des blockbusters adaptés de comics, même la quasi-totalité à part Deadpool, sont interdits aux moins de 13 ans. Oui. Et ça veut dire que bon, c'est très sanglant, c'est très violent.
D'ailleurs, je crois que Jackman a négocié une baisse sur son salaire.
Exactement,
pour que le film puisse sortir sur ce label-là.
Tout à fait, mais je pense que tout le monde a fait des sacrifices. Ouais. Et c'est pas gratuit. C'est-à-dire que au-delà du langage ordurier et de la violence, ce qui est formidable et parfaitement adapté en plus au personnage de Wolverine, c'est un film adulte dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui ose être anxiogène. Aborder des thématiques qui sont compliquées, qui parlent à tous, et ça fait du bien, ça fait extrêmement plaisir. Puis le truc, c'est que moi j'ai toujours trouvé que malgré sa taille, parce que c'est quand même un mec qui est très grand, il y avait une vraie rencontre entre un personnage de comics et puis son interprète. C'est-à-dire que Hugh Jackman, pour moi, c'est une super interprétation de Wolverine. Et je trouve que ça n'avait jamais été vraiment, il n'avait jamais été servi par le film qu'il méritait, en fait. C'était parfois correct, parfois c'était très embarrassant.
Tu penses à Wolverine Origins, par exemple,
mais je pense aussi au caméo qu'il fait dans le dernier X-Men, oui. qui est vraiment catastrophique.
Et même le truc avec les samouraïs et les ninjas, hein,
c'était pas terrible, c'était un peu mieux quand même. Mais là, voilà, ça fait plaisir de le voir exploiter pleinement son potentiel, quoi.
Daniel.
Bah écoute, je commencerai comme toi, enfin, parce que c'est le premier film où, avec Wolverine où vraiment je sens qu'ils ont compris un truc dans le perso. Et pourtant c'était pas gagné parce que comme toi aussi j'ai des problèmes avec Hugh Jackman. Je pense pas que ce soit le meilleur acteur pour le faire, mais ça a été la meilleure interprétation possible. Il est vraiment trop grand, alors que ce qui fait pour moi son tempérament, c'est le fait qu'il soit trapu et qu'il est petit et qu'il compense là-dessus. Et il y a une scène importante dans le film qui est d'ailleurs dans le trailer. C'est il voit une bande dessinée à un moment dans le film et il se voit en fait les histoires des X-Men sont devenues une chronique littéralement. C'est le passage un peu méta du film. Et il y a des bandes dessinées qui racontent donc les gens des X-Men et il est en train de regarder ça et il les balance en disant ça c'est pour les gamins qui font pipi au lit quoi. C'est des conneries. Et à ce moment-là je me suis dit merde c'est peut-être pas le bon film. Parce que j'y voyais à nouveau cette espèce de cynisme qu'on voyait, cette espèce un peu post...
Distance, ouais.
Ouais, cette espèce de côté un peu post-Josh Whedon, post... allons-y, Batman v Superman, tu vois, ce côté on se moque du matériel. Et en fait, pas du tout. Au contraire, il désamorce complètement le côté super-héros. Et pour une fois, on n'a pas juste un bon film de super-héros, on a vraiment un bon film en tant que tel. Alors, c'est pas Unbreakable, mais c'est vraiment, il y a une vraie proposition d'un cinéma qui peut se regarder sans honte par rapport à son sujet, parce qu'ils ont compris un truc, le truc important de ces personnages. Il y a une dynamique qui se crée entre Xavier et Logan. Ils s'aiment, mais ils se supportent plus. Ils ont passé des années ensemble et en même temps ils vieillissent tous les deux. C'est-à-dire Logan, il commence à perdre ses pouvoirs. Xavier est devenu une épave qui ne peut plus contrôler ses pouvoirs. Et ils vont traverser les États-Unis, donc il y a une espèce de road movie, mais en même temps à la fois de western. À un moment même, ils regardent un western à la télé. Il y a beaucoup de références cinématographiques, il y a une vraie proposition de cinéma, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça dans un film. Et ils comprennent vraiment ce que c'est qu'en fait, finalement, les films de super-héros, le plus important, c'est pas forcément le méchant, c'est pas forcément sauver le monde, mais c'est aussi comprendre que le monde vaut le coup d'être sauvé. Et ça, je pense que Logan l'a vraiment compris. Il y a vraiment un truc fondamental du super-héros qu'ils ont compris dans ce film. Et ça nous fait du bien par rapport à tout ce qu'on avait pu voir. Ben, j'ai cité Batman v Superman. Tous ces films qui confondent adulte et noirceur, en fait. Mmh. Et là, c'est clairement noir. Mais en même temps, il y a de l'humour et il y a de la distance avec le sujet. Mais en même temps, ils perdent pas de vue là où ils vont. Alors que, justement, c'est parce que c'est un road movie. C'est parce que c'est des personnages en train de mourir. Et ça lui donne un côté crépusculaire, un peu Unforgiven. Tu vois.
Le truc sur le fait que ce soit R-rated, c'est que c'est pas un gimmick en fait. C'est là-dessus qu'il faut insister. Et le côté méta dont Daniel parle, c'est pareil. C'est pas un gimmick. C'est même un truc où il retourne ça dans le film. Alors, je peux pas spoiler, mais où il redonne du sens en fait aux comics à l'intérieur de l'histoire des personnages. Et il explique pourquoi c'est important et pourquoi cette idéalisation aussi de leur propre existence est importante. Et là aussi où c'est super intéressant d'avoir cette démarche là sur Wolverine. Et je pense pas que ça soit valable pour tous les super-héros, loin de là, c'est que je pense que c'est le personnage pour faire ça. C'est le personnage qui se prête à ça. C'est le personnage qui a besoin de cette noirceur-là pour être pleinement satisfaisant au cinéma. Il faut quand même dire que le film, il est pas parfait. Pour moi, il y a deux problèmes qui sont facilement identifiables. J'ai peur, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'ai peur que ça en fasse une cible un peu facile. Mm-hmm. Il y a un problème, je trouve, dans le dernier acte où il y a une scène...
C'est le moment où ça redevient un film de super-héros.
Un peu redondante, où il t'explique un peu trop les choses, il développe un peu trop certains personnages, je trouve. Et puis, il y a un petit problème avec les méchants que moi, je trouve tous intéressants, y compris un qui a... Enfin, on ne peut pas spoiler non plus, mais qui est l'arme ultime, on va dire, des méchants. Qui pour moi thématiquement est super intéressante, mais le vrai souci avec les méchants, c'est qu'ils sont un peu sous-exploités. C'est clairement pas ce qui intéresse James Mangold, et c'est dommage parce qu'en plus il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit super bien, et notamment le grand méchant est très très intéressant et très prometteur. Mais c'est vrai que moi il y a une petite frustration là-dessus, mais qui est totalement rattrapée par le reste du film et notamment la fin et la dernière image. Qui encore une fois renvoie aux comics d'ailleurs et qui est assez bouleversante en fait. C'est une très 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 belle fin pour Wolverine quoi.
Et ouais, Daniel. Moi j'ai plutôt aimé en fait les méchants qui sont un peu en second plan. D'ailleurs ils ont fait exprès de prendre des Reavers qui sont quand même pas des personnages des méchants majeurs. Le leader des Reavers c'est Donald Pierce en plus. Alors on peut y voir beaucoup de relectures du monde actuel. Par exemple, on voit quand même les Mexicains qui sont quand même maltraités à la frontière des USA, et il y a un mur, et il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, un méchant qui s'appelle Donald, tu vois. Il y a, genre, il y a tu peux faire beaucoup de relectures. C'est un film qui doit énormément à Children of Men, je pense, qui a vraiment été une grande influence sur la manière d'écrire le film post-apocalyptique de manière à la fois sérieuse et intelligente. Et ouais, c'est un film plein d'influences, et tu sens que bah ils ont absorbé tout ça. Et moi, j'étais pas sûr que James Mangold il allait réussir ça. Au début, en voyant les trailers, je me disais merde, ça va être intouchable avec Xavier en fauteuil roulant.
Oh mon Dieu, tu n'as pas dit ça.
Non, mais il y a des vrais. Et en plus, c'est ce qui est assez rigolo dans le film, c'est qu'il y a des vraies scènes de sitcom en fait. Et il y a de l'humour dans le film. Alors, il est vraiment très très noir. C'est pas un film à voir avec ses gamins. Mais l'humour, il est là par les situations en fait, et c'est donc d'où c'est vraiment un sitcom quoi. C'est des personnages qui réagissent entre eux et à ce qu'ils sont en train de devenir et aussi leurs rêves, parce que ils ont arrêté de rêver et Logan est complètement dépressif et je pense que c'est un des meilleurs vraiment. Hugh Jackman, il est vraiment à son top de niveau d'acting. C'est vraiment peut-être son.
Patrick Stewart aussi, puis la gamine aussi, on n'en a pas parlé, mais elle est incroyable. Quoi.
La gamine
qui s'appelle Daphne Keane.
Daphne Keane, qui vraiment, elle a 11 balais. Elle
te dit, mais comment ils ont pu tourner ces scènes-là avec une môme quoi.
C'est l'acteur studio à l'américaine où ils ont vraiment des.
Ah, elle est super. Elle est super bien écrite.
Des plein de gamins qui arrivent à jouer de manière assez vraiment sérieuse et en même temps vraiment elle a le ton juste. Et tu disais Patrick Stewart qui se donne à cœur joie puisque il joue le rôle d'un vieux boulet quand même. Il dit fuck et il dit plein d'insultes et c'est plus que l'ombre de lui-même et c'est assez réjouissant donc pour un lecteur de comics donc que je suis puisque on pensait que ça allait beaucoup s'inspirer de Old Man Logan.
Oui.
Et en fait, pas du tout.
Oui.
D'ailleurs, à tel point que Mark Millar n'est même pas remercié à la fin du film. Ça reprend beaucoup plus le côté transitoire, c'est-à-dire il y a la petite, X-23, donc c'est vraiment... ils ont pris d'autres éléments, en fait. On ne s'attendait pas à ce qu'ils essayent d'être aussi original avec le matériau d'origine. Et je trouve que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On arrive à un moment un plafond dans les films de super-héros, c'est-à-dire on a eu les origines, on a eu le passé intermédiaire, on a eu la mort, on a eu plein de phases différentes, on a eu Batman Rise, genre on boucle la boucle, et donc on connaît toutes ces histoires, on nous resserre des origin stories, ils essayent de plus nous en faire, et là on est en train de voir un mouvement où ils sont en train d'essayer de prendre le matériel et de rester fidèle à l'esprit et d'essayer d'en faire autre chose, et c'est ce qu'a fait Logan, c'est ce qu'on voit par exemple aussi dans une série qui vient de commencer qui s'appelle Legion. On peut pas faire plus obscur, c'est le fils de Xavier, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'obscur, mais ils essayent d'en faire quelque chose de complètement différent, et c'est ce qu'on va avoir pendant les 10 prochaines années, hein. ça va être des twists différents sur des personnages qu'on connaît, et là en l'occurrence ça a réussi. Ça me fait presque peur, parce que quand quelque chose fonctionne et quand quelque chose est bien, il est généralement perverti par le système, et donc on va avoir plein de petits twists, plein de...
Je vois que le film fonctionne et puis c'est compliqué en plus d'adapter ça ailleurs quoi. Enfin je sais pas, je suis pas sûr que le film fasse école en fait. Peut-être que j'aimerais bien en fait.
C'est quoi, ils sont en train de les Deadpool là, on va en avoir. Hein, je pense que
Deadpool c'est très différent.
Ouais.
Mais est-ce que justement un film comme Logan n'est pas dû aussi le fait que c'est un film comme Logan soit possible n'est pas dû au succès de Deadpool quoi,
ça
qui
été...
et qui ait des propositions plus radicales ça autour
été,
du super-héros.
Ça a été greenlighté avant Deadpool et c'est vraiment la volonté de Mangold et puis de Hugh Jackman. Non dans la production même. Après oui, je pense que ça facilite aussi et si ce qui serait bien en fait c'est que Logan fonctionne. Ça, je sais pas du tout si ça peut fonctionner ou pas. C'est pour moi très
surtout
très
derrière Singer, il va refaire encore un autre X-Men. Enfin,
il y a des chances. Il y a des fortes chances.
Je veux dire, ça va pas empêcher tous les autres trucs, tous les Snyder aussi de continuer leur film. Et c'est peut-être aussi ça la beauté des super-héros. Alors, surtout à nos ciné, on a tendance à les bâcher. Mais
qu'on les aime.
Et moi, je les aime encore plus, je crois. c'est que c'est quand même des personnages, c'est des archétypes aussi. Personnages qui sont là parfois depuis 50, 70 ans, parfois. Et on peut les utiliser de manière originale. On peut encore faire des choses positives. On le voit dans la BD, on le voit en série télé, on le voit au cinéma. qu'on en pense du bien ou pas, mais Lego Batman, c'est une autre proposition pour que tu puisses aller voir au cinéma Batman avec ton gamin. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire, et Logan, c'est une de ces pistes-là. C'est des films qui, pour les mecs qui aiment plutôt Honky Tonk Man de Eastwood et Unforgiven et Children of Men, tu vois, c'est un film qui peut leur parler et en même temps qui utilise le matériel de leur enfance.
C'est beau ce que tu dis, Daniel. Putain, tu me fais chialer. Avant
de se quitter. Écoute, va voir le film aussi, tu vas peut-être chialer.
Avant de se quitter, messieurs, on va prendre quand même un instant pour nos habituelles recommandations autour de l'univers Marvel, si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé, Daniel.
Bon, j'ai déjà assez parlé de Children of Men, mais bon, si vous avez pas vu Children of Men. Non, tu sais quoi, en fait, à chaque fois, je me dis, il faut relire les origines, il faut relire le matériel d'origine. Mm-hmm. Et Wolverine, c'est un personnage vraiment fascinant et qui a vraiment pris son envol pendant ce qu'on appelle la Dark Phoenix saga. Et c'est la période de Chris Claremont et de John Byrne. À l'époque, le comics ne se vendait pas des masses, et ces deux artistes sont mis sur le personnage. John Byrne est canadien, et il a vu en Logan le potentiel d'être un anti-héros parfait. Il a été le premier grand anti-héros du monde comics avant Punisher, avant tous les autres. Et il en a fait quelque chose de très important en fait dans la pop culture américaine. Il y a une planche en particulier où Wolverine se fait envoyer dans les égouts et il fait sneak et il dit maintenant c'est mon tour et il commence à les buter. C'est des choses qu'on voyait pas avant dans la BD populaire. Et ouais, donc Dark Phoenix Saga, c'est vraiment essentiel. Si vous avez jamais lu, c'est vraiment une BD fabuleuse. Voilà.
Julien.
Bah, je vais rester aussi dans les comics. Alors, j'ai pas la connaissance de Daniel, mais moi, je voudrais citer Weapon X de Barry Windsor-Smith, qui est une BD qui revient en fait sur les origines de Wolverine et la création de
l'arme X.
L'arme X. Du monstre qu'il est, qui a enfin moi je sais que j'ai beaucoup fantasmé une adaptation cinématographique de ce comics, et il a été complètement pillé et perverti dans toutes les adaptations des X-Men au cinéma qu'on a vu. Il y en a un tout petit peu, si mes souvenirs sont bons, dans le premier X-Men, il y en a beaucoup plus dans le deuxième. Il y en a énormément dans l'épouvantable. Alors c'était X-Men Origins, c'est ça ?
Le tout premier.
Le premier.
Il y en a encore dans le dernier Apocalypse encore.
Ouais. C'est peut-être un des pires. Enfin, visuellement, c'est vraiment embarrassant.
Ah oui, avec son casque et tout ça. Ouais. C'est l'enfer. Ouais.
Alors que il y a un truc à faire avec cette BD qui traite en plus Wolverine comme une. Enfin, c'est entre la bête sauvage et le monstre, la créature de Frankenstein, c'est fascinant, ça se lit tout seul.
C'est super et c'est beau. Très beau. Et contrairement au comics que j'ai recommandé, il est plus, je dirais, adulte. Il faut déjà avoir un œil aiguisé. Le dessin de Barry Windsor-Smith, quand même, c'est un mec qui est vraiment très. Un dessin très intellectuel. C'est très, très particulier. La première fois que je l'ai lu, je devais avoir 12 piges, j'ai eu du mal. Et c'est un truc sur lequel je suis revenu plus adulte. Et bah, c'est un exemple aussi qu'on peut faire vraiment des différentes choses avec le même personnage.
Et si on reste dans les comics, moi je vais faire une petite reco aussi. Il y a une histoire courte de Wolverine qui s'appelait donc Serval à l'époque, c'était sorti en français. Dessinée et écrite par Frank Miller, qui est très très belle, qui se passe au Japon et qui, je pense, a inspiré en partie le combat de l'immortel. Mais qui, en tout cas, je sais pas si c'est trouvable, ça a été réédité. Moi, j'en ai une très vieille édition.
Très facile.
Mais c'est
bah, ça, c'était le début de la période.
Short story,
le début de la période Logan contre Ninja.
Voilà, qui est une très belle histoire, on va dire.
C'est peut-être le meilleur de Miller en dessin.
Et voilà, exactement. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, Seb à la technique, pardon. Merci.
Ce qui t'arrive.
Au public, j'ai écrit Jules, c'est pas ma faute. Merci au public qui a fait le déplacement. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site leciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si par chance vous passez par iTunes pour suivre nos émissions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à nous gratifier d'une bonne note si vous pensez que nous la méritons. Ce sera grandement apprécié. D'ailleurs, merci d'avance. Et puisqu'on en est au remerciement, j'en profite pour saluer Nicolas Lim et Yann Chirabier, qui sont deux des contributeurs de notre beau Ulule qui est allé jusqu'au bout, notamment grâce à eux. Donc merci beaucoup. Et en attendant la prochaine, on vous dit à très bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.